Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Galère, galère. Aujourd'hui, émission Livres et Amis du mercredi 15 décembre. Et d'abord, des nouvelles d'Odile qui a quitté son centre de convalescence pour un EHPAD marseillais. Nous lui souhaitons de s'y sentir bien et nous espérons bientôt y enregistrer à nouveau des émissions avec elle. À sa demande, nous saluons Laurie, une de ses aides-soignantes, et nous en profitons pour saluer le personnel de santé qui aurait bien besoin d'être plus nombreux, mieux considérés, mieux payés, etc. Revenons à l'émission avec Françoise à la lecture et Dominique à la présentation pour un livre paru il y a bien longtemps que Odile, comme d'autres, a lu et relu, Nejma de Katem Yassine. Katem Yassine, écrivain algérien, est né à Constantine en 1929 et mort à Grenoble en 1989. Il a milité pour l'indépendance de l'Algérie et beaucoup écrit en tant que journaliste, en tant qu'auteur de théâtre, romancier et poète. Il a aussi beaucoup voyagé en Afrique du Nord et en Europe. Le roman Nejma a été publié en 1956. À travers la vie de quatre jeunes hommes de sa génération, Katem Yassine y évoque le combat pour l'indépendance de l'Algérie à travers notamment les émeutes de Sétif, sauvagement réprimées le 8 mai 1945, mais aussi il dépeint la vie au quotidien dans l'Algérie coloniale et puis surtout il figure l'Algérie éternelle avec son passé antique, ses tribus berbères, ses traditions rurales. Plus qu'un roman narratif avec des personnages et une histoire, Nejma, dont l'héroïne apparaît plus comme un symbole que comme un caractère central, le roman Nejma, donc, est une mosaïque de tableaux de l'Algérie éternelle, comme des petits films différents sur un écran divisé, comme des scènes multiples du théâtre historique, colonial et contemporain de l'Algérie. Écoutons d'abord ce que dit du roman le critique Gilles Carpentier, puis Françoise nous lira la première scène. Quelques mois après la parution de Nejma, alors que la guerre atteint son paroxysme en Algérie, Katem Yassine écrit à Albert Camus, qu'il appelle son cher compatriote, « Exilés du même royaume, nous voici comme deux frères ennemis, drapés dans l'orgueil de la possession renonçante, ayant superbement rejeté l'héritage pour ne pas avoir à le partager. Mais voici que ce bel héritage devient le lieu hanté où sont assassinés jusqu'aux ombres de la famille ou de la tribu, selon les deux tranchants de notre verbe pourtant unique. De fait, à bien des égards, et peut-être plus encore avec le recul du temps, Nejma apparaît comme la réponse de l'étrangère à l'étranger. Il s'agissait bien pour Katem Yassine de donner à voir une Algérie que personne ne voulait voir, ni les ultras de la colonisation, ni les élateurs du nationalisme arabe, ni même les modérés, tels Albert Camus, qui, après avoir déclaré et préféré le désordre à l'injustice, en était venu à choisir sa mère plutôt que la justice. Une Algérie multiple et contradictoire, agité des soubresauts de sa longue et violente histoire, une Algérie jeune et âgée, musulmane et païenne, savante et sauvage, à l'image d'un monde réel que l'imagerie de la guerre froide a un temps occulté et qu'on s'étonne aujourd'hui de retrouver à feu et à sang. Si Nejma, l'étoile en arabe, donne son titre au roman, elle n'en est pas vraiment le principal personnage. plutôt le lieu central rayonnant de ce que Kateb Yassine appellera plus tard le polygone étoilé, attirant les regards et les convoitises, un astre s'effondrant sur lui-même. Parmi les auteurs que Kateb Yassine cite le plus souvent, qu'il dit avoir lu très jeune, Gérard de Nerval tient la première place. À travers Nejma, proche cousine des Filles du Feu, il n'hésite pas à se réapproprier, pour l'exposer dans toute sa crudité, cet Orient des voyageurs que l'Occident a déjà profondément transformé. Il ignore sans doute alors qu'il se transformera lui aussi en infatigable pèlerin, en voyageur d'Orient et d'Occident, afin de ne jamais abdiquer une liberté durement conquise. Car c'est cela aussi la lumière de Nejma. En dépit de toutes les contraintes et oppressions, en dépit des ancêtres et des envahisseurs, la promesse d'une libération. La première phrase du livre est aussi une des dernières. L'Agdar s'est échappé de sa cellule. J'ai oublié de vous dire que Kateb, ça veut dire l'écrivain en arabe. Et c'est le pseudonyme que Kateb Yassine s'est choisi.
L'Agdar s'est échappé de sa cellule. À l'aurore, sa silhouette apparaît sur le palier. Chacun relève la tête sans grande émotion. Mourad dévisage le fugitif. « Rien d'extraordinaire, tu seras repris. Ils savent ton nom. J'ai pas de carte d'identité, ils viendront te choper ici. Fermez-la, ne me découragez pas. » Plus question de dormir, l'Agdar aperçoit la bouteille vide. « Vous avez bu ?» Grâce au barbu, il sort d'ici. « Et moi, j'ai pas le droit de me distraire ?»« Écoutez, » propose Mourad, « on va vendre mon couteau. » On trouvera bien un gosse pour nous chercher du vin. Personne n'ira imaginer que c'est pour nous. Ils entrent dans le plus piteux des cafés morts, l'Agdar en tête. Les clients leur font des signes d'intelligence. Beaucoup les invitent. Ils montrent le couteau à un tatoué. Il offre 50 francs. 75, dit Mourad. Bon, le couteau valait bien 150 francs. Moitié prix, c'est régulier. Les quatre étrangers prennent d'autres cafés, cette fois à leur compte. Leurs invitations sont chaleureusement rejetées. Ils soulèvent une certaine curiosité. « C'est l'un de vous qui a frappé M. Ernest ?»« Moi, » fait l'Agdar, avec la simplicité d'un vieux leader. « Tu as bien fait, frère. Si tu veux, je t'allonge encore 20 francs pour le couteau. »« Laisse, » dit l'Agdar. « Ce qui va dans ta poche va dans la nôtre. » En sortant du café mort, ils heurtent un ivrogne. Rachid vocifère. « Voilà notre ami l'Agdar qui a réglé son compte à M. Ernest. Va chercher trois bouteilles. » Ils boivent jusqu'au matin dans la chambrée commune. À 6 heures, ils partent pour le chantier sans l'Agdar. Cherchant les premiers coups de pioche, M. Ernest semble revenu à de meilleurs sentiments. Le front bandé, son masque de fumeur maussade a disparu. Il questionne d'un ton calme. « Où est l'Agdar ?»« Je sais pas, » grimace Mustapha. « Il peut revenir, j'ai pas porté plainte. » Tandis qu'il se démène, les ouvriers poursuivent de loin en loin la conversation.
Les quatre jeunes gens, donc les quatre étudiants rebelles, qui, comme Kateb Yassine, ont participé aux émeutes du 8 mai 45 et ont dû interrompre leurs études après avoir été emprisonnés et torturés, sont les quatre fils conducteurs qu'on retrouvera au fil du roman. Il y a Mustapha, le calme et le sage, qui écrit son journal, dont on pourra lire quelques extraits. Il y a l'Agdar et Mourad, demi-frères, longtemps éloignés l'un de l'autre, violents, de rébellion instantanée, quelquefois irraisonnée. Il y a Rachid, figure du voyageur qui accompagne un homme plus âgé, Simokhtar, son oncle peut-être. Au moment de la scène du début, qui est aussi la scène de clôture du roman, les quatre jeunes gens sont manœuvrent sur un chantier. Ils participent de cette image de la société coloniale, avec M. Ernest, le contremaître, qu'on vient de rencontrer, Suzy, sa fille, M. Ricard, l'entrepreneur de transport qu'elle va épouser. Revenons au chantier.
Tandis qu'ils se démènent, les ouvriers poursuivent de loin en loin la conversation. Ils se demandent si le chef d'équipe ne prépare pas un mauvais coup. pas la première fois qu'un chef d'équipe se fait rosser par un manœuvre. Possible que M. Ernest soit de ces chefs qu'il faut mener à la baguette. Améziane pense que Lagdar n'a qu'à revenir. Si c'est un piège, nous sommes là. Gare aux incidents, souffle Mustapha. À 11 heures, arrive la fille avec le panier. Dieu le généreux. Elle est pleine de mouvements qui paralysent. Elle s'appelle Suzy, comme une artiste. Monsieur Ernest souffle sur sa fourchette. Les ouvriers ne savent si c'est de manger seul qui l'énerve ainsi chaque jour à l'heure du repas. Il recommence à les épier. Cette fois, Mourad semble tout particulièrement l'irriter. Il ne le quitte pas des yeux. Les hommes creusent, trottent, flânent de toute leur force, comme si la tension générale s'efforçait de dresser une digue contre le silence menaçant du chef d'équipe. Suzy sourit, et ce sourire à lui seul, par sa fraîcheur même, fait pressentir l'orage, bien qu'elle se préoccupe de ne fixer son regard sur aucun ouvrier. Aujourd'hui, le repas du chef tourne autrement qu'hier. Il mastique, il grogne quelque chose du côté de Suzy. Le sourire se fige. Elle regarde à ses pieds. Le ciel se découvre. Dans les trouées de soleil, les corps se raniment, les membres craquent. Des yeux neufs balayent le chantier. Cependant, Améziane garde une expression de mépris résigné, parlant entre ses dents en kabyle. Ses amis laissent entendre qu'il est capable de faire un malheur. Et là, sans lever les yeux, Mourad laisse tomber les bras de sa brouette. « Accompagne ma fille à la maison. Il y a du bois à scier. » Mourad s'éloigne à grands pas. Suzy ne paraît guère disposée à marcher avec lui. Elle le suit à bonne distance, ralentissant dès qu'il fait mine de se retourner.
Donc, les personnages se mettent en place, en effet, avec, on l'a vu, les quatre jeunes gens, le contremaître, Suzy, et on va nous présenter maintenant Monsieur Ricard, l'entrepreneur de transport que Suzy doit épouser.
Monsieur Ricard quitte son lit vers 5 heures. Il enfile un vieux pantalon ajouré et commence à bourdonner dans l'ombre de sa bonne, les souliers à la main, butant sur les murs et les meubles astiqués, lourds, instables, bruyants, comme les mouches dont il interrompt le nocturne intermède, suivis par leur agitation incertaine et leur rase-motte de protestation contre ce réveil dans la chaleur solaire, sans l'allégresse du jour qui les aurait doucement tirés de la torpeur, si le vieil entrepreneur ne sautait rituellement de son lit au chant du coq, alors que son autocar a encore 2 heures pour démarrer. Avant d'ouvrir tout à fait les yeux, il se tâte les poches, caresse le briquet, les clés de son infranchissable appartement, chantonne devant l'évier, émerveillé par la durée du savon, coiffe la casquette en cuir. Elle suffit à le distinguer de tous les citoyens qui se lèvent d'aussi bonne heure, mais ne saurait imiter ce port de casquette à la racine des cheveux poivre et sel, par quoi M. Ricard proclame sa fortune au village encore endormi, à part quelques contremaîtres comme M. Ernest, dont la silhouette s'allonge vers la carrière où les manœuvres l'attendent dans la pénombre en nettoyant leurs outils, tandis que l'autocar de l'entrepreneur brille déjà de 1000 feux. Plus que jamais, depuis que Suzy est nubile, l'entrepreneur et le chef d'équipe s'observent, se défient, sautant du lit à la même heure et jouant de la casquette, à la veille de l'inévitable alliance qui ne dépend plus que d'un geste. La demande en mariage que M. Ricard fera au dernier moment, selon son rang et sa réputation, et la casquette de qualité inférieure ne pourra que s'abaisser une fois de plus, avec l'orgueil de M. Ernest et l'arrogance de la Suzy, habituée au soupir des manœuvres, et qui n'en sera pas moins acquise sans débat par le veuf équivoque, le vieux maniaque dont le chef d'équipe ne cesse de maudire l'incroyable réussite, tout en se préparant à lui sacrifier sa fille. M. Ricard ne songe d'ailleurs pas à spéculer sur son prestige de propriétaire en rupture de ban. Taciturne, cupide, mal accoutré, il n'aura jamais rien d'un homme d'affaires. Sa fortune est un coup de force, un acte d'énergie désespérée qui l'isole et le stérilise, lui dont la protestante famille ne pouvait même pas, en visitant l'église, prendre place parmi les Européens.
Donc, portrait au vitriol de la société coloniale et de ses tenants, mais portrait quand même assez poétique de Suzy, qui est la première petite héroïne de l'histoire.
Suzy en robe du dimanche, pas besoin de soutien-gorge, Dieu merci. Elle passe en coup de vent au marché, pose le panier dans la cuisine et reprend la grande route, coupe par un terrain vague. Un pâturage s'étend assez loin de là. Elle court au plus épais de l'herbe, se laisse choir parmi les narcisses. Le soleil chauffe dur. Elle ferme les yeux l'espace de quelques secondes, se redresse avec un frisson et s'en retourne éperdument vers le village, comme si un monstre l'avait surprise et mordue à la cheville sans qu'elle puisse ni s'en détacher, ni en ressentir la morsure. Sur la route, elle aperçoit des paysans à dos de mulet. Puis Mourad paraît au tournant. « Bonjour, mademoiselle. » Suzy croit que les paysans la regardent en piquant le col de leur montre, de leur monture. Elle s'approche de Mourad. Quand les paysans passent, elle est si près de lui qu'il a un mouvement de recul. « Vous allez loin ?»«
Je me promène. »
Il presse le pas. Mourad marche tête baissée.
« Laisse-moi. »
« Et voilà, pense Mourad, le charme est passé, je redeviens le manœuvre de son père, elle va reprendre sa course à travers le terrain vague, comme si je la poursuivais, comme si je lui faisais violence rien qu'en me promenant au même endroit qu'elle, comme si nous ne devions jamais nous trouver dans le même monde, autrement que par la bagarre et le viol. Et voilà, déjà elle me tutoie, et elle me dit de la laisser, comme si je l'avais prise à la taille, surprise et violentée, de même que les paysans sont censés l'avoir surprise et l'avoir violentée, rien que par le fait de l'avoir vue, elle qui n'est pas de leur monde, ni du mien, mais d'une planète à part, sans manœuvre, sans paysans, à moins qu'il ne surgisse ce soir même dans ses cauchemars. Si je lui pressais les seins, puis sa pensée n'est plus que de la frapper, de la voir par terre, de la relever peut-être, de la battre à nouveau, jusqu'à ce qu'elle se réveille, somnambule tombée de haut, avec toutes ses superstitions, quitte à mourir sans avoir reconnu qu'il y a un monde, ni le sien ni le mien, ni même le nôtre, mais simplement le monde qui n'en est pas à sa première femme, à son premier homme, et qui ne garde pas longtemps nos faibles traces, nos pâles souvenirs, un point c'est tout, pense Mourad. Mais Suzy se retient de rire, à présent, toute rouge, les nerfs à fleur de peau, comme ne peut l'être qu'une jeune fille, ça le désarme. Elle va partir. Ils ne se disent rien. Elle regarde du côté des narcisses, là où elle était couchée tout à l'heure, humide, solitaire, entr'ouverte. Et Mourad rougit. Et le visage rougissant de Suzy se ferme à nouveau. Elle s'en va en courant.
Oui, donc, société coloniale caricaturée dans ses responsables ou supposés tels. Société coloniale qui caricature aussi les rapports hommes-femmes, puisque ici, le jeune homme et la jeune femme paraissent comme enfermés dans leur image traditionnelle et ne pouvant véritablement communiquer, même s'ils en ont envie. Autre scène de cette société coloniale, juste avant le mariage qui clora notre première partie, une scène de nuit un peu mystérieuse, dans laquelle les quatre jeunes gens semblent être sortis avec, entre guillemets, le barbu, pour, on ne sait pas trop, pour aller peut-être faire une action un petit peu d'éclat dans le village, mais on en saura plus tard.
Un gardien de nuit, le fusil dressé vers le ciel, observe le groupe attardé de sa guérite. Le barbu se félicite de ne l'avoir pas salué. C'est un serpent qui écoute aux portes. Il a fait mettre au cachot combien de jeunes gens? Qui se paye ces gens-là?
Notre commune.
Ce sont en général d'anciens cavaliers de l'administrateur, des fonctionnaires en retraite, des soldats démobilisés. Nous n'avons d'ailleurs rien à nous reprocher, dit Mourad. Pourtant, si le gardien savait que vous êtes des journaliers, si je n'étais pas avec vous, il sifflerait. Nous aussi, on sait siffler. On peut lui donner la réplique. Il dirait que vous devez respecter la loi. À tout prendre, vous feriez bien de le saluer, ainsi que les autorités civiles et militaires, surtout M. Ricard, qui a des lignes d'autocar. Il n'a que des ennemis, et tout le monde le salue. Il refuse de prendre les voyageurs si leur tête ne lui revient pas. Ce n'est pas l'argent qui manque. Il vient d'acheter son 5e véhicule. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'à se remarier. L'Agdar hâte le pas, et le barbu renonce pour ce soir à éclairer la lanterne de ces braves jeunes gens, un peu nerveux, à la fois naïfs et blasés, comme tous les citadins. C'est ainsi que les villageois se font décrire par le barbu les quatre manœuvres récemment embauchées par M. Ernest.
Donc rien ne s'est passé, c'est simplement une scène de tension. La nuit, finalement, tout le monde est suspect, surtout les musulmans qui se promènent tranquillement. Mais bien pire, si on peut dire, et beaucoup plus violente en tout cas, va être la scène du mariage. Vous verrez que c'est comme une scène surréaliste, délirante, qui commence comme un mariage, et puis avec quelques excès de boissons sans doute, tourne au carnaval où tout est permis, jusqu'à la violence.
Le mariage de M. Ricard a été célébré dans la plus stricte intimité. Le peuple a eu beau grimper aux arbres et faire toutes sortes d'acrobaties, il n'a pu assister aux ripailles. M. Ricard était mortifié de devoir ouvrir sa maison à tant d'invités. Tous les Européens du village avec leurs familles. Seuls manquaient les personnalités de première importance, dont les délégués vinrent d'ailleurs en grand nombre, sans invitation ni mandat. Fort heureusement, le curé de la région, habitant un autre village, n'eut pas vent de la chose, et le pasteur non plus ne fut pas alerté. À l'encontre de ce qu'on espérait, il n'y eut pas de conflit entre le calvinisme de l'entrepreneur et le catholicisme de sa fiancée, faute de prêtre pour croiser le fer. Le scandale prit une autre forme. M. Ricard supporta tout d'abord la beuverie de pied ferme, mais la conjuration devait l'emporter. Il se soula de lui-même lorsqu'il comprit que c'était là l'unique défi qu'il pouvait relever avec une chance de victoire. Quelques-uns de ses entraîneurs avaient déjà roulé à ses pieds. Ce triomphe le grisa par surcroît. Sa joie dégénérait en agressivité. Il ne faisait que rire, mais la présidente du comité de la Croix-Rouge reçut plusieurs noyaux de date dans son corsage et son bébé terrorisé se mit à mordre le tire-bouchon. Alors, M. Ricard fut porté dans son lit, encore conscient, mais incapable de surmonter l'impuissante fureur qui l'avait envahi dès le début du banquet. Il voyait bien que ses pires ennemis étaient là, qu'il se payait sa tête et souillait à plaisir son repère de vieux célibataire en train de rater son second mariage. Mais il se laissait habiller d'une vieille chemise trop courte, et Suzy, réalisant que la nuit de noces n'aurait pas lieu, vidait un reste de champagne sans qu'on pût deviner si c'était la joie ou le dépit qu'elle noyait ainsi sous les yeux de ses parents. On la coucha dans le lit conjugal, où elle se mit à se débattre sous le crucifix affolé, tandis que la présidente de la Croix-Rouge se vengeait en montant la garde auprès du couple terrassé et brandissait le bébé hurlant de manière à étouffer les cris de rage de l'entrepreneur, si bien qu'on n'entendit pas la fin du cantique entonné par M. Ernest dans une flambée fanatique suscitée par sa femme, soit pour sauver la face, soit pour provoquer quelques protestantes ripostes de M. Ricard qui achèverait de le ridiculiser. Mais la présidente de la Croix-Rouge restait au centre du scandale et Suzy ne se débattait plus. Elle s'était finalement tournée vers son fiancé, qu'elle secouait et rudoyait à plaisir, sans rencontrer de résistance, car l'entrepreneur était apparemment dans le coma. En réalité, il avait l'esprit ailleurs. Il n'avait pas entendu le cantique, mais ses yeux se fermaient sur un groupe d'invités qui fouillaient dans l'armoire. Au commencement de l'orgie, la bonne était dans la cuisine inondée de soleil. Elle en sortit au crépuscule pour s'opposer au pillage. Aussitôt empoignée, elle fut traînée dans la chambre nuptiale. La femme du receveur des postes prit la bouteille de rhum à moitié vide et l'appliqua aux lèvres de la servante. « Quelle blague !» jubilait l'huissier. « On lui fera rater son paradis avant sa mort. » La bonne s'était raidie. La femme du receveur lui cogna les gencives avec le goulot et le tout coula en une fois. 8 hommes tenaient solidement la bonne, sans parler des enfants. Enfin, la femme du receveur jeta la bouteille vide. La bonne tomba, puis se redressa, les yeux exorbités. Ce fut sa première et sa dernière imprécation. « Vous êtes des mécréants !» M. Ricard sauta du lit. « Va-t'en d'ici tout de suite, sors !» Elle vacillait au milieu de la chambre, prise de nausée, répétant dans un souffle, sans voir son patron, sans distinguer sa voix. « Vous êtes des mécréants !» Le receveur glissa dans un fauteuil. Si sa femme n'avait présidé à la farce, il se serait traîné aux genoux de la servante, pas pour la consoler, pour la faire taire.
Il vit Suzy bondir à son tour du lit pour s'emparer de la cravache suspendue au mur. Monsieur Rigard prévint le geste de sa fiancée. Il prit la cravache. Le premier coup atteignit la bonne dans les yeux. Elle n'eut qu'un gémissement d'angoisse, comme si elle redoutait, en criant, de vomir sur le parquet sacro-saint. Le second l'atteignit encore dans les yeux. Elle restait debout, les mains tendues, sans desserrer les dents. Les coups pleuvaient. Monsieur Ricard frappait avec une expression de niaiserie indignée. Il ne comprenait plus que la bonne offrit toujours son visage, et il commençait à ressentir l'absence de sa casquette. Il savait maintenant, dans son ivresse éteinte, qu'il ne pourrait s'arrêter de frapper, ni achever la proie, chancelante, sans se retourner contre les convives serrés en cercle autour de lui. Alors, Mourad entra d'un pas feutré. Il ne bouscula pas les invités. Un coup de genou plia le corps de l'entrepreneur, juste au moment où Suzy le tirait en arrière, et Mourad à son tour s'acharna, ne put retenir ses coups. Lorsqu'il reprit conscience, il était solidement attaché près des deux corps qui semblaient fâchés pour l'éternité. La bonne se mit à geindre et le brigadier trancha la corde au poignet de Mourad. Les invités étaient toujours là, serrés, en un même cercle, comme s'il n'y avait pas eu de crime, comme si chacun avait été prévenu que Suzy ne garderait pas sa belle robe, que le mariage se terminerait en veillée funèbre. Et le gendarme qui enferma Mourad avait envie de l'embrasser. C'était le même gendarme que Suzy avait appelé pour arrêter l'Agdar au chantier. Le même gendarme qui aimait Suzy et qu'elle aimait. Le même qui enferma Mourad alors qu'il eût voulu le porter en triomphe. Le même gendarme qui porta le cercueil de Monsieur Ricard, car il était lui aussi protestant.
Donc je vous parlais d'une scène de carnaval. C'est presque en effet une scène de Jérôme de Bosch. Enfin, on a l'impression d'accumulation de délire, d'accumulation bien sûr dans l'alcoolisme, mais aussi dans la violence. Et cette première partie se clôt dans la violence en effet, et avec la séparation des quatre jeunes gens, puisque Mourad est emprisonné, mais que les trois autres quittent la ville où se passe la scène. Le reste du roman va donc se présenter comme une mosaïque de tableaux se succédant, comme des boucles, ou plutôt comme des sphères indépendantes, composant des mondes détachés les uns des autres, antérieurs à la scène initiale d'ailleurs, et expliquant en partie la situation du début par le retour sur l'histoire des différents personnages. Parmi eux, il y a en effet Nejma, il y a cette femme, cousine à la fois de l'Agdar et de Mourad, mariée à un autre cousin, mais nous verrons son histoire plus tard. Et d'abord, un peu de musique de Constantine, le malouf constantinois bien connu, que nous retrouvons pour quelques instants.
عصير توم دول جلا ناديت غيتني يا قباد الارواح وعزم سريع اقباض روحي انا ارتاح روحي تحاسبك يا حضرة روحي تحاسبك يا حضرة هل البلا وحوس وديها نبغي ولي بتي تتكلف كما بديتني تبديها نبيت يا إلهي خفف من ثقلتي وزيد عليها وين نبغي نديها هي صبيعة وين نبرا هي صبيعة وين نبرا يا هي صبيعة وين نبرا هي تميت من فوقنا نتنح نروي بالشفيف الحمرا
Donc ce malouf constantinois, cette musique traditionnelle qui entoure les personnages ici et qui nous permet de revenir à Nejma. Nejma qu'on va nous présenter de façon, comme je le disais, assez éclatée à travers différents petits éléments de portrait qui se présentent au fil du roman.
Elle vint à Constantine, je ne sais comment, je ne devais jamais le savoir. Elle était debout, sombre et distraite, dans le salon d'une clinique. Je n'avais jamais vu pareille femme à Constantine. Aussi élégante, aussi sauvage, en son incroyable maintien de gazelle. On eût dit que la clinique était un piège et que la prestigieuse femelle était sur le point de s'abattre sur ses fines jambes faites pour la piste ou de s'échapper brusquement au premier geste qu'on oserait vers elle. Son visage, ses riches vêtements, sa chevelure nouée de soie pourpre faisaient à présent un halo ruisselant d'ombre, plein de regards perdus. Je n'étais pas étonnée d'être là. N'entendais plus le timbre de l'horloge que je fixais pourtant de temps à autre pour me donner d'une contenance et aussi une superstition. Les deux aiguilles n'allaient pas tarder à se joindre, il allait être midi.
Donc Nejma, personnage mystérieux en effet, personnage sur lequel d'abord, comme on vient de le voir ici, Mourad, puis Lagdar, puis Rachid reviendront. Et en plus, il y aura même quelques pages du journal de Mustapha qui seront consacrées à Nejma. Nejma, elle est mystérieuse aussi par son origine, parce qu'en fait, on ne connaît pas vraiment son père ou sa mère, ou plutôt, on suppose son père, on suppose sa mère, puis elle a été adoptée. Et donc ici, quelques lignes d'abord sur son père potentiel.
Le vieux bandit et séducteur, le vieux Mokhtar, est à la fois le père de Kamel, celui de Nejma, et aussi vraisemblablement l'assassin que le fils de la victime poursuit sans le savoir, car Rachid ne peut pas savoir ce que je sais, n'ayant pas connu la mère de Kamel, qui me révéla d'autres choses encore. Oui, la mère de Kamel connaissait toute l'histoire de la petite fille adoptée par le défunt mari de Leila Fatma. C'était Nejma, alors âgée de 3 ans, abandonnée par sa mère, la française, et confiée par Mokhtar à l'époux de Leila Fatma, reconnue stérile.
Donc, mère française, mais origine mystérieuse par ailleurs, et surtout personnage un petit peu emblématique de la femme qu'on ne peut pas atteindre, de la femme qui échappe toujours. Dans l'extrait qu'on a lu, c'est Mourad qui parlait, et ici, on fait référence à l'écrivain, ce personnage aussi un petit peu mystérieux, qui va apparaître et réapparaître dans le livre.
L'écrivain lui-même raconte que le jour où il vit Nejma d'assez près, pour la première fois, il ne put se défendre d'un choc au cœur. Il existe des femmes capables d'électriser la rumeur publique. Ce sont des buses, il est vrai, et même des chouettes, dans leur fausse solitude de minuit. Nejma n'est que le pépin du verger, l'avant-goût du déboire, un parfum de citron.
un parfum de citron et le premier jasmin afflue avec le délire de la convalescente mère, encore blanche, hivernale. Mais toute la ville s'accroche à la vivacité des feuillages, comme emportée par la brise aux approches du printemps.
Et à ce mystère du personnage en lui-même, s'ajoute celui de sa résidence, puisqu'elle habite un quartier résidentiel sur les Hauts de Constantine, et que ce quartier, finalement réservé en principe aux Européens, va faire d'elle un être à part.
Incontestablement, la fatalité de Nejma provenait de l'atmosphère dont elle fut entourée petite fille, alors que s'allumaient les jeux déjà ravageurs de la Vestale sacrifiée en ses plus rares parures. La splendeur toute brute, les armes rutilantes dont on ne croit jamais que femme puisse se servir sciemment, comme si les flatteries de Léla Fatma et les faiblesses de son époux avaient fait de la fillette un objet quasi religieux, lavé de ses enfantines noirceurs, polie, incrustée, encensée sans nulle crainte de l'altérer. La vraie Nejma était farouche et ses éducateurs convinrent peu à peu de lever devant elle tous les obstacles. Mais cette liberté gratuite, hors de son monde et de son temps, devenait le plus cruel obstacle. La mère adoptive était stérile et son mari dévot. L'eunuque et la mégère, tombés en adoration devant la Vierge, ne pouvaient récolter que la haine par leur culte venimeux de faux parents. Les charmes de Nejma, filtrés dans la solitude, l'avait elle-même ligotée, réduite à la contemplation de sa beauté captive, au scepticisme et à la cruauté devant la morne adulation de ses gardiens, n'ayant que ses jeux taciturnes, son goût de l'ombre et ses rêves jaloux.
Oui, cette enfance écartée du monde, nous fait presque penser aux héroïnes de Molière ou de Marivaux élevées hors du monde. De quoi Nejma est-elle le symbole ? Elle ne fera, en tant que réelle individualité, que peu de passages dans le roman. Mais c'est une femme libre, et c'est ainsi qu'on la retrouvera. Parmi les personnages qui sont évoqués aussi dans le roman, et peut-être le père de Nejma d'ailleurs, le vieux Mokhtar, que Rachid accompagne vers Jeddah pour un pèlerinage qui n'aboutira pas. Mais pendant le voyage, Mokhtar se fait souvent conteur pour évoquer sa tribu des Kébloutes, par exemple. La tribu des Kébloutes, c'est une tribu qui est historiquement vérifiée, si on peut dire, dans l'arrière-pays de Constantine et de Beaune. Et on va donc retrouver le personnage de Mokhtar avec Rachid qui... à bien des occasions, lui raconte l'histoire de son pays et des tribus traditionnelles de la montagne algérienne.
Mokhtar partait pour la Mecque. À 75 ans, chargé de tant de péchés que 48 heures avant de s'embarquer à destination de la Terre Sainte, il respira une fiole d'éther pour me purifier, dit-il à Rachid. Rachid était déserteur à l'époque. Retour de Tripolitaine. Il vivait dans les bois du Rimi, non loin d'une grotte de sinistre mémoire. Mokhtar rendait visite aux parias du Rimis, et il s'attardait de préférence avec Rachid. Ce n'était que festin à la lueur des torches, festin monstrueux. Certains jours, ils assommèrent un poulain, au cours desquels se renforçait encore l'extravagante amitié entre le septuagénaire et le blanc-bec, portant fièrement ses habits de soldat en rupture de banc.
Oui, donc les hommes, enfin c'est le jeune et le vieux, comme on nous souligne, font connaissance. Ça paraît surprenant, semble-t-il, dans la société de l'époque, que des personnages très différents par l'âge puissent être aussi proches. Et en fait, ils sont si proches qu'en effet, comme on vient de le voir, ils partent à ce supposé pèlerinage de la Mecque. Et en fait, à nouveau, le vieux Mokhtar prend la parole pour parler des tribus ancestrales.
Il n'est resté aucune trace de Kebloot. Il fut le chef de notre tribu à une date reculée qui peut difficilement être fixée dans le déroulement des 13 siècles qui suivent la mort du prophète. Tout ce que je sais, je le tiens de mon père, qui le tient de son père, et ainsi de suite. Mais il existe une probabilité pour que Kebloot ait vécu en Algérie, au moins pour la dernière partie de son existence, car il mourut plus que centenaire. Était-ce le Kebloot fondateur du Douar, ou seulement un de ses descendants nommés d'après lui? Selon l'un des rares oulémas qui connaissent l'histoire de nos tribus dans le détail, Kebloot serait venu d'Espagne avec les fils de la Lune et se serait d'abord établi au Maroc, puis serait passé en Algérie. Mais d'autres particularités de la gens kebloutienne peuvent indiquer une piste opposée. Il est notoire que plusieurs générations de Kebloutis ont exercé jusqu'à nos jours des fonctions particulières. Ce furent des tolbas, des étudiants errants. Ils étaient musiciens et poètes, de père en fils, ne possédant que peu de biens, mais fondant un peu partout leurs mosquées et leurs mausolées, parfois leurs médersas, quand les disciples étaient assez nombreux. Ceci donne à penser que le premier Kebloot ne dut être ni un capitaine, ni un dignitaire, mais un idéologue et un artiste. Et ce jour-là, dans sa cellule de déserteur, Rachid croyait entendre sur le pont les révélations passionnées de Mokhtar, pleines du tumulte de la mer Rouge en vue de Port-Soudan. Tu dois songer à la destinée de ce pays d'où nous venons, qui n'est pas une province française et qui n'a ni bey ni sultan. Tu penses peut-être à l'Algérie toujours envahie, à son inextricable passé, car nous ne sommes pas une nation, pas encore. Sache-le. Nous ne sommes que des tribus décimées. Ce n'est pas revenir en arrière que d'honorer notre tribu, le seul lien qui nous reste pour nous réunir et nous retrouver, même si nous espérons mieux que cela. Je ne pouvais te parler là-bas, sur les lieux du désastre. Ici, entre l'Égypte et l'Arabie, les pères de Kebloot sont passés, ballottés comme nous sur la mer, au lendemain d'une défaite. Ils perdaient un empire. Nous ne perdons qu'une tribu. Et je vais te dire, j'avais une fille, la fille d'une Française. J'ai commencé par me séparer de la femme à Marseille. Puis j'ai perdu la fille. C'était l'inconnu de la clinique. Les gens à qui je l'avais confié, au temps de mon amitié avec ton père, et qui étaient nos parents, l'ont toujours éloigné de moi. Et la mère adoptive vient de marier sa fille.
Voilà, donc au fait d'une espèce d'histoire circulaire, on a donc se rejoignant l'histoire de Nejma, l'histoire de Mokhtar, et puis l'histoire des quatre jeunes gens qui sont tout au long du récit les héros, on pourrait dire en pointillés, qui ont fait que l'Algérie contemporaine, les jeunes gens se dressent contre le système colonial pour s'opposer à la France dominatrice, pour s'opposer au système. On a plusieurs récits qui nous disent que nos jeunes gens se sont opposés, en particulier à l'époque des émeutes de Sétif, au système, et que lors des émeutes de Sétif, ils ont été emprisonnés et éventuellement torturés. Je vous rappelle que c'était le 8 mai 45. Mais surtout, ces jeunes gens, ils sont en fait des enfants de la société, on pourrait dire mixte, créée par la colonisation française. Et en fait, on a sans arrêt la référence aux enfances de ces jeunes dans des textes qui sont très souvent poétiques.
Le vieux chanteur parlait déjà de toute autre chose, penché sur Abdallah. Le boxeur baissait la tête, calme, jubilant. Et Rachid retrouvait la vieille impression d'avoir voyagé sous terre ou peut-être plus loin, à travers les savanes de plénitude et d'inconscience,
À l'époque où il pouvait vivre avec les insectes, l'eau du bassin, les pierres, les ombres du dehors, lorsque sa pensée s'élevait à peine de la simplicité animale. De son enfance, il n'avait jamais pu saisir que des bribes de plus en plus minces, disparates, intenses. Éclairs du paradis ravagé par la déflagration des heures, chapelet de bombes retardataires que le ciel tenait suspendues sur la joie toujours clandestine, réduite à se réfugier dans les tréfonds de l'être le plus frêle, l'enfant toujours juché à son soupirail, toujours curieux de l'éblouissement suivi par la morsure de l'ombre, la peur de rester prisonnier du monde, alors que d'autres univers pleuvaient nuit et jour sur Rachid, qu'il fut endormi dans le berceau en bois de peuplier, avec les petites fenêtres pour respirer, ou bien qu'il fît ses premiers pas sous l'averse. Rachid n'avait pas voyagé durant son enfance. Il avait le voyage dans le sang. Fils de nomade né en plein vertige, avec le sens de la liberté, de la hauteur contemplative. Les mystères pleuvaient et Rachid n'avait jamais ignoré que la terre passerait comme un rêve dès que les gens pourraient vivre en avion. Le nez en l'air, à 4 ou 5 ans, il avait conçu son aéronautique, malgré la chute des mystères qui chassaient toujours seuls sans rien se faire expliquer, avalant les contes maternels comme des somnifères agréables mais sans intérêt. Il ne portait pas de coiffure, les souliers restaient le plus souvent sur le seuil et le mot « Dieu » lui-même, qui présidait au veuvage d'Aïcha, reposait avec les balles égarées sur le toit. Rachid, l'adolescent, ne se souvenait pas de la première enfance. Il ressentait seulement, comme une cicatrice, la vive conscience d'antan. Le Rachid actuel ne lui semblait qu'une épaisse couche de lichen étouffant l'autre, le Rachid paradisiaque et frêle, perdu à la fleur de l'âge.
Enfance poétique, donc, enfance dans un monde qui s'ouvre et qui se ferme au fur et à mesure. On a l'impression que ces quatre jeunes gens sont comme perdus dans un monde qui ne leur correspond pas. Et en fait, à propos de Rachid, on va reparler de Mokhtar, c'est la suite du meurtre, enfin comment est traité le meurtrier et comment cette suite, ce meurtre, apparaît aussi dans la vie de Rachid.
Le meurtrier, qu'on appelait volontiers l'ami de Rachid, fut condamné à 20 ans de travaux forcés. Certains pensaient, sans trop le dire, un troisième crime pend au nez de Rachid. N'avait-on pas tué son père avant sa naissance ? Et voilà qu'un ami de Rachid commet un autre assassinat. Au troisième épisode, Rachid parlera. Les gens s'indignaient. On voyait d'un mauvais œil Rachid renier sa famille, se perdre dans la pègre, lui qui n'avait rien pu faire pour venger le très honoré défunt qui faisait autrefois scandale et dont le renom, grâce à sa mort tragique, avait acquis le sel de la légende. On en parlait comme d'un preux abattu à la fleur de l'âge par un rival de moindre envergure. Non seulement Rachid n'avait jamais recherché l'assassin, son père avait été tué d'un coup de fusil dans une grotte, mais devenu l'ami d'un autre meurtrier, sombrant dans la débauche, ravalé au rang de manœuvre, puis de chômeur, ne vivant plus que de chanvre, il était maintenant le maître du fondouk, le paria triomphant sur les lieux de sa déchéance. Les gens s'indignaient de rencontrer Rachid avec des repris de justice, des sans-profession, les sans-domicile, les sans-papiers, les demi-fous comme cet Abdallah, toujours sorti de l'asile. Ce fut lui qui renoua le premier avec Rachid, le cinquième jour qui avait suivi son retour du théâtre du crime, comme disaient les journalistes.
Et en fait, c'est tout à fait un personnage emblématique, lui aussi, Rachid. Hein. Le livre s'appelle Nejma, il aurait pratiquement pu s'appeler Rachid. Parce que Rachid, il est le véritable trait d'union entre la société traditionnelle et la société coloniale. Et trait d'union parce qu'en fait, il ne s'adapte pas. Il aurait pu s'adapter à la société coloniale, puisqu'il était étudiant, s'il n'avait pas été arrêté et expulsé de l'université à la suite des émeutes de Sétif. Donc, trait d'union raté, on pourrait dire. Et trait d'union qui va partir dans un autre sens, puisqu'en effet, en étant perdu dans la société, en voyageant, Il finit par devenir, on dirait à notre époque, dealer. On disait à l'époque plutôt teneur de chanvre ou de fumerie. Il devient en fait un membre de la pègre, plus ou moins intégré à une société qui va en fait tomber en déliquescence et qui va, parce qu'elle a été au départ encouragée par le colonialisme, qui va ensuite retomber encore plus bas. On renoue aussi dans le passé avec les racines communes de Rachid et de Nejma.
Nejma, l'Andalouse, la fille de la Française, avait opposé entre eux quatre soupirants, dont trois de la même tribu, les trois descendants de Kebblout, car c'était la mère de Nejma, la Française, c'était elle qui avait fait exploser la tribu en séduisant les trois mâles dont aucun n'était digne de survivre à la ruine du Nador. Et le dernier, le plus vieux des trois, n'avait que trop attendu, plus de 20 ans. Sans dire que Nejma était probablement sa fille, sans dire comment il avait quitté dans la grotte son complice, le proche parent, l'un des deux autres mâles, celui dont le sang versé ne coulait plus qu'en Rachid, ce complice, son rival, l'homme qui ne sortait jamais sans fusil et qu'il ne quittait pas d'une semelle jusqu'au jour où ils enlevèrent tous deux la mère de Nejma, croyant venger l'autre parent, le troisième, Sidi Ahmed, à qui la Française avait déjà été ravie dans une ville d'eau par le puritain, le quatrième soupirant, celui dont Kamel portait le nom, et Kamel épousa Nejma. Et Mokhtar venait de mourir à son tour, après avoir enlevé Nejma. Le père de Rachid avait-il séduit la Française avant d'être tué? Avait-il évincé Mokhtar avant d'être abattu dans la grotte où la Marseillaise avait été déposée par ses deux ravisseurs? Le père de Rachid ou Mokhtar, mort dans l'incertitude, lequel des deux donna le jour à Nejma dans la grotte? C'était pour savoir cela que Rachid avait épargné l'assassin de son père. Et Mokhtar était mort sans le savoir lui-même. Et Rachid ne saurait jamais jusqu'à quel point Nejma, la femme faite adversité, n'était pas tributaire du sang versé dans la grotte. Nejma, dont les hommes devaient se disputer non seulement l'amour mais la paternité, comme si sa mère française, dans un oubli sans vergogne, ou pour n'avoir pas à choisir entre quatre mâles deux par deux, n'avait même pas départagé les deux derniers, ses ravisseurs la condamnant ainsi à ce destin de fleur irrespirable, menacée jusqu'à la profondeur et à la fragilité de ses racines. Le père de Rachid, assassiné dans la grotte nuptiale, fut arraché au corps chaud de sa maîtresse par le rival et le proche parent, Mokhtar, qui l'épousa en secret, et c'est alors que Nejma fut conçue, étoile de sang jaillie du meurtre pour empêcher la vengeance. Nejma, qu'aucun époux ne pouvait apprivoiser, Nejma, l'ogresse au sang obscur comme celui du nègre, qui tua Mokhtar, l'ogresse qui mourut de faim après avoir mangé ses trois frères, car Mourad, à qui elle s'était fiancée secrètement, puis Lagdar, qu'elle aima, étaient les deux enfants de Sidi Ahmed, le premier ravisseur supplanté par le puritain, le père de Kamel, et Kamel épousa Nejma, qui le quitta sans divorce pour finir séquestré au Nador après la mort de Mokhtar, qu'il y avait conduite avec Rachid après le pseudo-pèlerinage à la Mecque, au cours du rapt ultime dont Rachid seul était revenu. Nejma, la goutte d'eau trouble qui entraîna Rachid hors de son rocher, l'attirant vers la mer, à Beaune, où elle venait d'être mariée. De même que son père était mort quand Rachid vint au monde, lorsque Rachid arriva au port, Nejma était l'épouse de Kamel. Et ce soir-là, au balcon, penché sur le gouffre en compagnie de l'écrivain qui l'écoutait depuis midi, Rachid n'était plus qu'une ombre, sans fusil, sans femme, ne sachant plus que tenir une pipe, pseudo-Rachid, issu trop tard de la mort paternelle.
Un genre de condensé donc dans ce dernier épisode de l'histoire et puis en même temps de la société coloniale, de la société musulmane, condensé de cette Algérie qui sombre dans la violence et qui peu à peu va devenir finalement le sujet principal du roman. On a donc un roman un peu mystérieux, symbolique, qui met en avant des personnages, dont le personnage féminin, bien sûr, de Dejma, mais qui n'est sans doute que le symbole du personnage beaucoup plus important de l'Algérie. Et on va reprendre un petit peu de musique de Malouf Constantinois pour terminer sur cette note algérienne.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.